Chapitre 14. On demande un conseil. Lorsque les Britanniques, rassemblés sur les bords du Tibre jaune, apprirent que leur intelligent compatriote, M. Spankler, venait d'être nommé un des lords du ministère des circonlocutions, cette nouvelle ne leur fit pas plus d'impression que les autres accidents ou les autres délits dont parlaient les journaux anglais. Les uns en rirent, d'autres avancèrent comme circonstance atténuante que la place était une véritable sinécure et que le premier imbécile venu pouvait la remplir pour peu qu'il sût signer son nom. D'autres encore, cela était des oracles politiques au maintien solennel, déclarèrent que Décimus avait raison de se renforcer, que c'était là le seul but constitutionnel de toutes les places dont il avait à disposer. Quelques Britanniques, plus bilieux que les autres, refusèrent de souscrire à cet article de foi. Mais leur opposition fut purement théorique. En pratique, ils firent preuve d'une apathie déplorable, ayant l'air de croire que c'était à quelques Britanniques inconnus, dont ils ignoraient l'adresse, de s'occuper de cette affaire. De même, un grand nombre de Britanniques, restés dans leur pénate, soutinrent, pendant au moins 24 heures consécutives, que ces mêmes Britanniques, invisibles et anonymes, devraient bien dire au gouvernement leur façon de penser, et que s'ils supportaient tranquillement une pareille infamie, ma foi, c'était bien fait. À quelle classe de la société appartenaient donc ces Britanniques qui manquaient à leur devoir? Où se cachaient-ils, les malheureux? Pourquoi se cachaient-ils? Comment se faisait-il qu'ils abandonnassent sans cesse leurs intérêts lorsque tant d'autres Britanniques se demandaient si souvent pourquoi ces défenseurs mystérieux des droits communs ne se montraient pas? Ce sont là des questions auxquelles personne n'aurait pu répondre, soit sur les bords du Tibre jaune, soit sur les bords de la noire Tamise. Madame Merdle, quand on lui adressa des félicitations, fit circuler cette grande nouvelle avec une grâce indolente qui lui donnait une nouvelle valeur, comme la monture rehausse l'éclat d'une pierre précieuse. « Oui, disait-elle, Edmond a accepté cette place. M. Merdle désirait qu'il l'acceptât, et il a cédé. J'espère qu'il s'y fera, mais je n'en sais vraiment rien. Cela le retiendra en ville pendant une grande partie de l'année, et il préfère de beaucoup le séjour de la campagne. Enfin, ce n'est pas une position désagréable. » Et puis, c'est une position. Cette nomination, on ne saurait le nier, peut passer pour une aimable attention à l'adresse de M. Merdle, et ce n'est pas non plus une mauvaise chose pour Edmond, s'il peut s'y habituer. Il n'y a pas de mal qu'il ait quelque chose à faire, et il n'y a pas de mal non plus qu'il soit payé pour le faire. Reste à savoir si cette nouvelle carrière conviendra mieux à Edmond que celle des armes. C'est en ces termes que s'exprimait la poitrine, passée maîtresse dans l'art de paraître faire peu de cas de ces choses, dont elle savait si bien rehausser l'importance. Cependant, Henry Gowan, que Décimus avait laissé de côté, allait en tournée chez toutes ses connaissances, depuis la porte du peuple jusqu'au faubourg d'Albane, ayant presque, pas tout à fait cependant, la larme à l'œil, jurant que Spankler était bien le plus doux, le plus inoffensif, en un mot, le plus aimable des ânes, qu'on n'eût jamais envoyé paître sur le domaine public. Il n'y avait qu'une chose au monde qui eût pu lui causer plus de joie que la nomination de ce cher anon, c'eût été la sienne. Il ajoutait que c'était tout juste le ballot de Spankler. Il y avait de beaux appointements à toucher, et son ami les toucherait à ravir. C'était une nomination ravissante, une chose admirable. Il pardonnait presque au noble Décimus de l'avoir oublié, lui, son indigne parent, tant il était heureux de voir attaché à un si bon râtelier, le cher anon, auquel il portait une si vive affection. Sa bienveillance ne s'arrêtait pas là. Il se donnait beaucoup de peine, chaque fois que l'occasion s'en présentait, pour faire ressortir devant le monde les talents de M. Sparkler, et bien que les efforts de Gowan eussent pour résultat invariable d'obliger le jeune fonctionnaire à offrir dans sa personne un déplorable spectacle d'imbécilité, on ne pouvait mettre en doute les intentions amicales de l'artiste amateur. Peut-être, cependant, l'objet de la tendresse de M. Spankler eut-il quelque doute à ce sujet. Mademoiselle Fanny se trouvait maintenant dans une position assez difficile. Tout le monde savait que le fils de Mme Merdle adorait la fille aînée de M. Dorrit, quelque capricieuse qu'elle fût avec lui. Fanny était donc assez identifiée avec ce jeune gentleman pour se sentir compromise lorsqu'il se rendait plus ridicule que de coutume. Aussi, comme elle ne manquait nullement d'esprit, elle vint souvent au secours de la victime, à qui elle rendit de bons offices en déjouant les aimables tentatives de Gawain. Mais, tout en agissant ainsi, elle rougissait de l'amoureux qu'elle ne pouvait se décider à congédier ni à encourager. Troublée par la conviction qu'elle s'embourbait de plus en plus dans une position embarrassante, elle était agacée en outre par l'idée que Madame Merdle triomphait de sa détresse. Il n'est donc pas étonnant que Fanny, avec un esprit ainsi tourmenté, revint un soir d'un concert et d'un bal donné par Madame Merdle dans un état d'agitation extrême et qu'elle repoussa la petite Dorrit de la toilette devant laquelle elle cherchait, dans sa colère, à verser des larmes, déclarant d'une voix haletante qu'elle détestait tout le monde et qu'elle voudrait être morte. « Chère Fanny, qu'as-tu donc? Conte-moi tes peines. » « Ce que j'ai, petite taupe que tu es, » répondit Fanny, « si tu n'étais pas la plus aveugle des sœurs, tu n'aurais pas besoin de m'interroger. Il faut donc que tu n'aies pas Dieu dans la tête pour m'adresser une pareille question. » « Est-ce Monsieur Sparkler, ma chérie ?»« Monsieur Sparkler !» répéta Fanny d'un ton de mépris, comme si ce malheureux soupirant était le dernier individu sous le soleil auquel elle put penser. « Non, mademoiselle la chauve-souris, ce n'est pas Monsieur Sparkler !» À peine avait-elle fait cette réponse qu'elle éprouva des remords d'avoir dit des sottises à sa sœur, déclarant avec force sanglots qu'elle savait fort bien qu'elle se rendait haïssable, mais que tout le monde s'entendait pour l'y réduire. « Je crains que tu ne sois pas très bien portante ce soir, chère Fanny. »« Ta, ta, ta !» répliqua la sœur aînée, se mettant de nouveau en colère. « Je me porte aussi bien que toi. Peut-être même devrais-je dire beaucoup mieux que toi. Et encore, il n'y aurait pas là de quoi me vanter. » La pauvre petite Dorrit, ne sachant pas trop comment s'y prendre pour offrir des consolations qu'on ne repoussa pas, finit par penser qu'elle ferait mieux de se tenir tranquille. D'abord, le silence d'Aimé agaça Fanny autant que l'avaient fait ses questions. Elle dit à son miroir que, de toutes les sœurs agaçantes, la plus agaçante était une sœur qui était molle comme un chiffon. Qu'elle savait bien qu'elle montrait quelquefois un exécrable caractère. Qu'elle savait bien qu'on devait la détester. Que lorsqu'elle se rendait haïssable, rien ne lui ferait autant de bien que de se l'entendre dire, mais qu'étant affligée d'une sœur silencieuse, on ne le lui disait jamais, et que, par suite, elle était naturellement forcée et contrainte de se rendre désagréable. D'ailleurs, ajouta-t-elle d'un ton irrité, s'adressant toujours à son miroir, elle n'avait pas envie de demander pardon. Il ferait beau voir une sœur aînée s'abaisser sans cesse à demander pardon à sa cadette. C'était là le fin mot, elle le savait bien. On avait le talent de l'obliger à se mettre dans une position dont elle ne pouvait sortir qu'en demandant pardon à sa cadette, bon gré mal gré. Enfin, elle fondit en larmes, et lorsque sa sœur vint s'asseoir à côté d'elle pour la consoler, elle s'écria « Aimé, tu es un ange !»« Mais je vais te dire ce qu'il en est, ma chérie, » continua-t-elle lorsque sa sœur eut réussi à la calmer. « Voici où nous en sommes. Ça ne peut pas durer longtemps comme ça, et il faut que ça finisse d'une façon ou d'autre. » Comme cette déclaration était un peu vague, quoique péremptoire, la petite Dorrit répondit « Nous allons en causer. » « C'est ça, ma chère, » reprit Fanny, essuyant ses larmes. « Causons-en. Mais me voilà raisonnable et tu vas me conseiller. Veux-tu me donner un conseil, ma chère enfant ?» Cette idée fit sourire Aimé elle-même, mais elle répondit « Oui, Fanny, je te conseillerai de mon mieux. »« Merci, ma petite chérie, » répliqua Fanny en l'embrassant. « Tu es mon ancre de salut. » Ayant de nouveau embrassé son ancre de salut avec beaucoup d'effusion, Fanny prit sur la toilette un flacon d'eau de Cologne et appela sa femme de chambre pour lui demander un mouchoir de batiste. Puis, après avoir permis à la suivante de laisser se coucher, elle continua à demander conseil, se tamponnant les yeux et le front de temps en temps pour les rafraîchir. « Mon trésor, commença Fanny, nos caractères et notre façon d'envisager les choses se ressemblent assez peu. Embrasse-moi encore, ma chérie, pour que tu ne t'étonnes pas de ce que je vais te dire. » « Ce que j'ai à te dire, ma chère, c'est que, malgré notre fortune, nous avons, socialement parlant, à lutter contre de grands désavantages. Tu ne comprends pas tout à fait ce que j'entends par là, Amy ?
Sans doute je te comprendrai mieux, répondit doucement la petite Dorrit, lorsque tu m'auras dit quelques mots de plus.
Eh bien, ma chère, ce que je veux dire, c'est qu'après tout, nous ne sommes que des intrus dans le monde fashionable.
Je suis bien sûr, Fanny, interrompit la petite Dorrit dans son enthousiasme admirateur, qu'en ce qui te concerne, personne ne s'en douterait.
C'est possible, ma chère enfant. Dans tous les cas, c'est très gentil et très affectueux de ta part de le croire, mon trésor. Ici, elle tamponna le front de sa sœur avec son mouchoir imbibé d'eau de Cologne et souffla légèrement dessus.
Mais on sait que tu es le meilleur petit être qui ait jamais existé. Revenons à nos moutons, mon enfant. Papa a tout à fait les manières et l'éducation d'un gentleman, mais il diffère sous certains rapports des autres gentlemen de son rang. En partie à cause de ce qu'il a eu à souffrir, pauvre cher homme, en partie, si je ne me trompe, parce qu'il se figure souvent que les autres pensent à son passé en causant avec lui. Notre oncle, ma chérie, n'est pas présentable. C'est une digne âme, et je lui suis tendrement attaché. Mais, socialement parlant, c'est dégoûtant. Édouard est affreusement dépensier et dissipé. Non qu'il n'y ait rien là qui ne soit fort comme il faut, au contraire. Seulement, il ne se comporte pas en mauvais sujet du grand monde, si je puis m'exprimer ainsi. Il n'obtient pas pour son argent l'espèce de réputation qui s'attache au genre de vie qu'il mène.
« Pauvre Édouard !» soupira la petite Dorrit. Ce soupir résumait toute l'histoire de la famille.
« Oui, et pendant que tu y es, tu pourrais aussi bien dire « pauvre toi » et « pauvre moi !» reprit l'aîné d'un ton un peu aigre. « Tu as raison. Et puis, ma chérie, nous n'avons pas de mère, et nous avons une madame générale. Et tu sais le proverbe, chat ganté n'attrape pas de souris. Eh bien, ma chère, tu verras que ses gants ne l'empêcheront pas d'attraper celle qu'elle guette. Cette femme, j'en suis sûre et certaine, sera notre belle-mère.
Je ne puis croire, Fanny. Fanny interrompit sa sœur.
Voyons, ne va pas te mettre à me contredire, Aimée, dit-elle. J'en sais là-dessus plus long que toi.
Sentant qu'elle avait encore montré un peu d'aigreur, elle se remit à tamponner le front de sa sœur et à souffler dessus.
« Pour résumer la question, ma chère, je me demande. Tu sais que je suis fière et vive, ma chère aimée, trop fière et trop vive, peut-être. Je me demande si je ne dois pas prendre sur moi le soin de maintenir la dignité de la famille. »«
Comment cela ? » demanda la petite Dorrit avec inquiétude.
« Je ne saurais, continua Fanny sans répondre à cette question, souffrir que Madame Générale fasse la belle-mère avec moi. Je ne souffrirai pas non plus que Madame Merle me tourmente ou me patronne en aucune façon. » La petite Dorrit posa sa main sur la main qui tenait le flacon d'eau de senteur, d'un air plus inquiet encore qu'auparavant. Fanny, qui avait l'air de vouloir punir son propre front à force de le tamponner avec violence, continua d'un ton agité. On ne peut nier qu'Edmond ne soit, d'une façon ou d'une autre, le moyen de faire rien à l'affaire, arriver à une très bonne position. Qu'il soit d'un rang distingué, c'est ce que personne ne peut mettre en doute. Quant à la question de savoir s'il a plus ou moins d'esprit, j'ai dans l'idée qu'un mari spirituel ne me conviendrait pas beaucoup. Je ne sais pas me soumettre. Je ne pourrai jamais me plier à la supériorité d'un autre. Oh, ma chère Fanny, s'écria d'un ton de remontrance la petite Dorrit, qui avait éprouvé un sentiment de terreur à mesure qu'elle comprenait ce que voulait dire sa sœur. « Si tu aimais quelqu'un, tu cesserais d'être toi-même, tu t'oublierais pour te dévouer à lui. Si tu aimais, Fanny... » Fanny avait cessé de se tamponner le front et regardait fixement sa sœur.
« Oh, vraiment, » fit-elle, « vraiment. Tiens, tiens, comme certaines personnes deviennent savantes et éloquentes, lorsqu'il s'agit de certaines questions. On dit que tout le monde a un sujet de prédilection, et il me semble que je suis tombé par hasard sur le tien, Aimée. Là, là, mon enfant, je ne faisais que plaisanter, tamponnant le front d'Aimée. Mais surtout, ma petite chatte, ne sois pas assez sotte pour aller faire des phrases et du sentiment sur des impossibilités indignes de nous. Là, à présent, reviens à ce qui me regarde personnellement.
Chère Fanny, laisse-moi d'abord te dire que j'aimerais mieux nous voir obligés de travailler encore pour vivre chichement que de te voir riche en épousant M. Sparkler.
« Que je te laisse dire, ma chère, » riposta Fanny,
« mais certainement, je te laisserai dire tout ce que tu voudras.
Je ne te fais pas peur, j'espère. Et quant à épouser M. Sparkler, je n'ai pas la moindre intention de l'épouser ce soir, ni même demain matin.
Mais plus tard ?
Pas que je sache, pour le moment du moins, » répondit Fanny d'un ton insouciant.
Puis, d'insouciante, elle devint tout à coup d'une agitation bouillante et ajouta
« Tu parles d'homme spirituel, petite chatte. Tout cela est bel et bon en paroles, mais où sont-ils, les hommes spirituels ? Je n'en vois pas un seul s'approcher de moi. »
« Ma chère Fanny, en si peu de temps. »
« Que ce soit longtemps ou peu de temps, » interrompit Fanny, « je suis lasse de notre position, je n'aime pas notre position, et il ne faudrait pas grand-chose pour m'engager à en changer. »
Des jeunes filles, élevées autrement que moi, et dans une situation bien différente sous tous les rapports, pourront s'étonner de ce que je fais ou de ce que je dis. Eh bien, qu'elles s'en étonnent tant qu'elles voudront, libre à elles. Elles sont entraînées par leur éducation et leur caractère, moi aussi.
Fanny, chère Fanny, tu sais que tu as des qualités qui te rendent digne d'un mari bien supérieur à M. Sparkler.
Amy, chère Amy, riposta Fanny, parodiant l'intonation de sa sœur, je sais que je voudrais bien me voir dans une position plus nette et plus décidée, ne fût-ce que pour être plus à même de tenir tête à cette insolente Madame Myrtle.
Et c'est pour cela, pardonne-moi cette question, que tu épouserais son fils ?
Peut-être, répondit Fanny avec un sourire de triomphe. On pourrait trouver un plus mauvais moyen que celui-là pour arriver au but que je me propose, ma chère. Cette impertinente dame s'imagine sans doute que ce serait un grand succès pour elle que de trouver une femme comme moi pour son fils, et elle compte me dominer. Mais peut-être qu'elle ne se doute guère du fil que je lui donnerais à retordre si je devenais sa belle-fille. Je lui résisterai en toute chose et je deviendrai sa rivale. Ce serait là le but de ma vie.
Fanny arrivait là, posa son flacon sur la toilette et se mit à se promener dans la salle, s'arrêtant par intervalle, mais sans s'asseoir, lorsqu'elle parlait.
« Il y a toujours une chose que je pourrais faire, mon enfant. Je pourrais la vieillir, et je n'y manquerai pas, je t'en réponds. »
Cette menace fut suivie d'une autre petite promenade.
« Je parlerai toujours d'elle comme d'une vieille maman. Je ferai semblant de savoir, quand même je n'en saurais rien, mais d'ailleurs son fils me l'apprendrait, son âge exact. Et elle m'entendrait lui dire, Amy, avec beaucoup d'affection et de respect, tu sais, comme elle a bonne mine pour son âge. Je pourrais la vieillir sans cela, rien que parce que je suis jeune. Il est possible que je ne sois pas aussi belle que Madame Myrtle. Je ne suis pas assez désintéressée dans la question pour la décider moi-même, je suppose. Mais je sais que je suis assez jolie pour la tenir sur les épines du matin au soir. Et je n'y manquerai pas non plus, va. »
Et elle recommença à se promener dans la chambre.
« Ma chère sœur, est-ce que tu voudrais te condamner à mener une existence malheureuse pour arriver à un pareil résultat ?»«
Ce ne serait pas une existence malheureuse pour moi, Amy. C'est celle qui me convient le mieux. Que ma nature ou le concours des circonstances l'ait voulu ainsi, peu importe. Toujours est-il que cette existence-là me conviendrait mieux que toute autre. » Il y avait dans son ton de l'amertume et du regret, mais avec un petit éclat de rire orgueilleux, elle reprit sa promenade, et après avoir passé devant une psyché, elle poursuivit
« sa tournure, Amy. Eh bien, j'en conviens, elle est bien faite. Je vais lui rendre cette justice.
Mais est-elle donc si bien faite que personne ne puisse rivaliser avec elle ?
Ma parole d'honneur, j'en doute. Que le mariage vienne seulement donner à des femmes beaucoup plus jeunes la même latitude qu'elle a pour sa toilette, et nous verrions un peu, ma chère. »
Cette idée agréable et flatteuse la ramena de meilleure humeur à son fauteuil. Elle prit les mains de sa sœur dans les siennes et les frappa l'une contre l'autre en les élevant au-dessus de sa tête tandis qu'elle la regardait en riant.
« Et la danseuse, Amy, la danseuse qu'elle a si complètement oubliée, la danseuse qui ne me ressemble en rien et que je ne lui rappelle jamais, ou non, jamais, danserait sans cesse devant elle et lui chanterait un air qui troublerait un peu son calme insolent.
Rien qu'un peu, ma chère, un tout petit peu. rencontrant le regard sérieux et suppliant d'Aimé, elle abaissa les quatre mains et retira une des siennes pour la poser sur la bouche de sa sœur. « Surtout, ne t'avise pas de raisonner avec moi, mon enfant, » continua-t-elle d'un ton beaucoup moins enjoué, « parce que ce serait parfaitement inutile. Je comprends ces choses-là beaucoup mieux que toi. Je suis loin d'avoir pris une résolution, mais il se peut que j'en prenne une. Maintenant que nous avons discuté la question comme deux bonnes sœurs, nous pouvons aller nous coucher. Bonsoir, la meilleure et la plus chérie des petites chattes. » Ce fut ainsi que Fanny prit congé de son ancre de salut, et après s'être laissée conseiller comme on a vu, cessa pour le moment de demander l'avis de la petite Dorrit. À partir de ce moment, Aimée remarqua la façon dont M. Sparkler était accueilli par sa tyrannique maîtresse, et chaque jour, elle découvrit de nouvelles raisons de prendre la chose au sérieux. Il y avait des instants où Fanny ne pouvait souffrir l'imbécilité de son amoureux, et où elle était si impatientée qu'on s'attendait à le lui voir congédié pour de bon. D'autres fois, elle prenait beaucoup mieux la chose, elle avait l'air de s'en amuser et de trouver dans le sentiment de sa propre supériorité une sorte de compensation pour ce qui manquait dans l'autre plateau de la balance. Si M. Sparkler n'eût pas été le plus fidèle et le plus soumis des soupirants, il se serait enfui du théâtre de ses épreuves et aurait mis entre lui et son enchanteresse toute la distance qui sépare Rome de Londres. Mais il n'avait pas plus de volonté que le navire remorqué par un vapeur, et il continuait à suivre sa cruelle maîtresse, que la mer fût calme ou houleuse, entraînée par une puissance irrésistible. Madame Merton, pendant ses préliminaires, parlait fort peu à Fanny, mais elle parlait d'elle assez souvent. Elle se trouvait, pour ainsi dire, forcée, malgré elle, de la regarder à travers son lorgnon, et de se laisser arracher dans le cours de la conversation des louanges involontaires en apparence, comme s'il n'y avait pas moyen de résister à la beauté victorieuse de Mademoiselle Dorrit. L'air de défi avec lequel Fanny entendait ces louanges, car je ne sais comment cela se faisait, mais elle manquait rarement de les entendre, n'annonçait pas qu'elle fût disposée à faire la moindre concession en faveur de la poitrine impartiale. Mais la plus grande vengeance que se permit la poitrine était de dire tout haut « Une enfant gâtée !» Mais avec ce visage et cette tournure, comment ne l'aurait-on pas gâtée ? Un mois ou six semaines environ après le soir de la consultation en question, la petite Dorrit commença à trouver qu'il y avait une entente plus déclarée entre M. Sparkler et Fanny. M. Sparkler, comme s'il eût pris quelque engagement à cet effet, n'ouvrait jamais la bouche sans avoir regardé Fanny pour lui demander la permission de parler. Cette demoiselle était trop discrète pour répondre de vive voix à cette muette interrogation. Mais si elle voulait accorder à M. Sparkler le droit d'émettre une opinion, elle gardait le silence. Sinon, elle parlait pour lui. En outre, lorsque Henry Gowan renouvelait une de ses tentatives amicales pour mettre M. Sparkler en évidence, il devenait clair comme le jour que la victime se tenait à présent sur ses gardes. Qui plus est, Fanny, sans la moindre intention de personnalité et par le plus pur des hasards, bien entendu, ne tardait pas à faire quelque allusion armée d'une pointe si acérée que Gowan reculait comme un homme qui vient de mettre la main dans un guêpier. Une autre circonstance, bien qu'assez insignifiante en elle-même, contribua beaucoup à augmenter les inquiétudes de la petite Dorrit. Les façons de M. Sparkler vis-à-vis d'elle changèrent tout à coup et devinrent fraternelles. Parfois, lorsqu'elle se trouvait au dernier rang de quelque cercle distingué, chez son père, chez Madame Merton ou ailleurs, elle sentait le bras de M. Sparkler se glisser furtivement autour de sa taille, comme pour la soutenir. Le jeune fonctionnaire n'offrait jamais la moindre explication pour justifier cette politesse, se contentant de sourire d'un air bête, satisfait, bon enfant et sans gêne, qui, chez un personnage aussi lourd, en disait gros sur la question. La petite Dorrit était chez elle un jour, songeant à Fanny avec un véritable serrement de cœur. Il y avait, tout au bout de leur salon de réception, une salle qui n'était guère qu'un rassemblement de fenêtres cintrées en saillie sur la rue, et d'où l'on voyait à droite et à gauche le spectacle pittoresque du Corso, si vivant et si animé. Vers 3 ou 4 heures du soir, la vue qu'on avait de cette salle était très brillante et très curieuse. et la petite Dorrit avait coutume d'y venir rêver pendant des heures entières, à peu près comme elle faisait à son balcon de Venise. Une après-midi qu'elle était assise là, une main se posa doucement sur son épaule, et Fanny vint s'asseoir auprès d'elle en disant « Eh bien, ma chérie !» La banquette était prise sur l'embrasure de la fenêtre. Lorsqu'il y avait une procession ou quelque autre spectacle à voir, on tapissait la croisée de draperies brillantes, et les spectateurs s'agenouillaient ou s'asseyaient sur cette banquette et admiraient de là ce qu'il y avait à voir, appuyés sur les riches tentures. Mais ce jour-là, il n'y avait aucune espèce de procession. Aussi la petite Dorrit fut-elle assez surprise de voir Fanny, car c'était l'heure où elle avait l'habitude de faire une promenade à cheval. « Eh bien, Amy, dit Fanny, à quoi penses-tu, mon enfant ?»«
Je pensais à toi, Fanny. »«
Vraiment ? Comme cela se rencontre. Mais voici encore quelqu'un à qui tu ne pensais guère, je suppose. » Amy venait justement de penser à ce quelqu'un-là, car c'était M. Spankler. Elle ne la voit pas, néanmoins, mais se contenta de lui tendre la main. Le jeune prétendant vint s'asseoir à côté d'elle, et elle sentit le bras fraternel se glisser derrière elle et s'allonger comme pour soutenir Fanny par la même occasion. « Eh bien, petite sœur, demanda Fanny avec un soupir, tu devines sans doute ce que cela veut dire. Elle est aussi belle qu'adorée, bégaya M. Sparkler, et pas bégueule du tout. C'est arrangé. » « On ne vous demande pas d'explication, Edmond, » interrompit Fanny. « Non, mon amour. » « En un mot, ma chérie, » continua Fanny, « nous voilà fiancés. Il n'y a plus qu'à en parler à papa ce soir ou demain, selon que l'occasion se présentera. Alors l'affaire sera conclue, et il ne restera que fort peu de choses à dire. « Ma chère Fanny, » dit M. Spankler avec respect, « je voudrais dire deux mots à Amy. Bien, bien, dites-les. » « Au nom du ciel, et finissons-en !» répondit Mademoiselle Fanny. « Je suis convaincu, ma chère Amy, » reprit M. Spankler, « que s'il existe au monde une fille, après votre spirituelle et charmante sœur qui n'est pas du tout... »« Nous avons cela, Edmond !» interrompit Mademoiselle Fanny. « Ce n'est pas la peine de le répéter. Passez à autre chose. » « Oui, mon amour, et je vous assure, Amy, que rien ne peut me causer plus de joie. Sauf, bien entendu, le bonheur et l'honneur d'être agréé par une fille ravissante qui n'a pas l'ombre de... « Voyons, Edmond, voyons !» interrompit de nouveau Fanny avec un mouvement impatient de son petit pied. « Mon amour, vous avez parfaitement raison, c'est une mauvaise habitude. Ce que je voulais dire, c'est que rien au monde, excepté le bonheur d'être uni à la plus adorable des filles, ne saurait me causer plus de joie que de pouvoir cultiver la connaissance affectueuse d'aimer. » « Il se peut, » continua M. Spankler, avec une courageuse franchise, « que je ne sois pas très fort lorsqu'il s'agit de comprendre certaines choses, et je sais fort bien que si vous interrogiez sur mon compte la société en général, on vous en dirait autant. Mais pour ce qui est d'apprécier Amy, je ne le cède à personne. » Et pour le prouver, M. Spankler embrassa la petite Dorrit. « Une place à notre table, une chambre dans notre maison, poursuivit-il, devenant très diffus pour un orateur de sa force, seront toujours à la disposition d'Aimé lorsqu'il lui plaira de les accepter. Mon gouverneur, j'en suis sûr, sera toujours heureux d'accueillir une personne pour laquelle j'ai tant d'estime. Quant à ma mère, qui est une très belle femme sans aucune espèce de... « Edmond, Edmond !» s'écria Fanny avec le même geste que la première fois. « J'obéis, mon âme, » répliqua M. Spankler d'un ton soumis. « Je sais que c'est une mauvaise habitude que j'ai, et je vous remercie beaucoup, mon adorable, de vous donner tant de peine pour m'en corriger. Mais tout le monde convient que ma mère est une très belle femme, et elle n'a vraiment pas l'ombre de... « c'est possible, je ne dis ni oui ni non, » interrompit la future, « mais ne parlez plus de cela, je vous prie. » « Plus un mot, mon amour. » « Alors, vous n'avez plus rien à dire, Edmond, n'est-ce pas ?» demanda Fanny. « Au contraire, j'en ai déjà tant dit, mon adorable, » répondit M. Sparkler, « qu'il ne me reste plus qu'à vous demander pardon d'avoir parlé si longuement. » M. Sparkler devina tout à coup, par une espèce d'inspiration, que cette question voulait dire « Ne feriez-vous pas bien de vous en aller ?» Il retira donc son bras fraternel et annonça très adroitement qu'avec la permission de Fanny, il allait prendre congé. Il ne s'éloigna pas sans avoir reçu les félicitations d'Amy, qui, dans son chagrin, eut assez de peine à s'acquitter de ce devoir. Lorsqu'il fut parti, elle s'écria « Oh, Fanny, Fanny !» et, se tournant vers elle, à cette brillante croisée, mit la tête sur le sein de sa sœur pour y cacher ses larmes. Fanny commença par rire, mais elle ne tarda pas à poser son visage contre celui de sa sœur et pleura aussi un peu. Ce fut la dernière fois qu'elle laissa échapper une trace de la lutte qu'elle avait subie contre quelques sentiments cachés avant de se résoudre à ce mariage. À dater de ce jour, elle suivit d'un pas impérieux et libre la route qu'elle s'était tracée. Chapitre 15. Publication des bans, n'y ayant aucune cause d'empêchement valable à la célébration du mariage entre mademoiselle et monsieur. Lorsque monsieur William Dorrit apprit que sa fille aînée avait prêté l'oreille aux ouvertures matrimoniales de monsieur Sparkler, qu'elle lui avait même donné sa foi, il accueillit cette nouvelle avec beaucoup de dignité, mais aussi avec un orgueil paternel qu'il ne chercha pas à dissimuler. Sa dignité se gonflait à l'idée qu'une pareille alliance allait lui faciliter les moyens de faire des connaissances de plus en plus distinguées, et son orgueil était touché de l'empressement sympathique avec lequel Fanny secondait son vœu le plus cher. Il ne lui laissa donc pas ignorer qu'une si noble ambition éveillait dans son cœur paternel d'harmonieux échos, et lui donna même sa bénédiction comme à une fille obéissante et dévouée qui se sacrifiait pour le plus grand honneur de sa famille. Quant à M. Sparkler, dès que sa prétendue lui permit de se montrer, M. Dorrit lui avoua sans détour que la proposition dont on daignait l'honorer lui souriait infiniment. D'abord parce qu'elle paraissait d'accord avec les affections spontanées de sa fille aînée, ensuite parce qu'elle promettait d'établir des relations de famille très flatteuses entre lui et M. Myrtle, le génie des temps modernes. Il parla aussi en termes fort louangeurs de la mère de M. Edmund, comme d'une dame que sa distinction, son élégance, sa grâce et sa beauté plaçaient au premier rang. Néanmoins, il remplissait un devoir en remarquant, il avait la conviction qu'un homme d'autant de bon sens que M. Sparkler saurait interpréter ses paroles avec toute la délicatesse possible, qu'il ne pourrait considérer la proposition comme définitive avant d'avoir eu l'avantage d'être mis en rapport avec M. Myrtle et de s'être assuré que ce gentleman consentirait à mettre Miss Fanny Dorrit sur le pied dont la position sociale, la dot et les espérances de cette demoiselle devaient lui assurer le maintien, cela soit dit sans mériter le reproche d'entrer dans des débats mercenaires vis-à-vis du grand monde. Mais tout en faisant cette réserve que lui imposait sa double qualité de père et de gentleman d'un certain rang, il ne voulait pas faire de la diplomatie en dissimulant que la demande de M. Sparkler le flattait. Il l'accueillait donc conditionnellement et remerciait M. Sparkler de l'honneur qu'il lui faisait en songeant à s'allier à sa famille. Il termina par quelques remarques générales sur sa position de gentleman indépendant et son caractère de père qui le rendait peut-être partial dans son admiration et sa tendresse pour sa fille. Bref, il reçut la demande de M. Sparkler à peu près comme il eut naguère reçu de lui un petit écu. M. Sparkler, étourdi par les phrases qu'on amoncelait sur sa tête inoffensive, fit une réponse laconique mais très convenable, où il se contenta de dire ni plus ni moins qu'il avait depuis longtemps remarqué que Mademoiselle Fanny n'était pas du tout bégueule et qu'il ne doutait pas de l'approbation de son gouverneur. À cet endroit de son discours, l'objet de sa flamme lui ferma la bouche comme on ferme le couvercle d'une boîte à surprise et le renvoya. M. Dorrit, étant allé bientôt présenter ses respects à la poitrine, fut reçu avec la plus grande considération. Mme Myrtle avoua qu'Edmond lui avait parlé de cette affaire. Cela l'avait un peu étonné tout d'abord, parce qu'elle ne supposait pas qu'il eût du goût pour le mariage. La société ne s'était pas figurée non plus qu'Edmond fût disposé à dire adieu à la vie de garçon. Cependant, Mme Myrtle n'avait pas pu s'empêcher de remarquer « Nous autres femmes, nous avons un instinct particulier pour découvrir ces choses-là, Monsieur Dorrit. Combien Edmond était épris de Mademoiselle Dorrit, et elle ne devait pas lui cacher
qu'elle avait dit tout haut que M. Dorrit était bien imprudent d'avoir amené une si charmante personne à l'étranger pour tourner la tête à ses compatriotes. « Dois-je avoir l'honneur de conclure, madame, demanda M. Dorrit, que le choix de M. Sparkle a votre approbation ?»«
Je vous assure, M. Dorrit, répondit Mme Merdle, que personnellement, je suis ravi. »
M. Dorrit déclara qu'il était extrêmement flatté. « Personnellement, répéta Mme Merdle, j'en suis ravi. »
La répétition accidentelle du mot « personnellement » engagea M. Dorrit à exprimer l'espoir que le consentement de M. Merdle ne se ferait pas non plus attendre.
« Je ne saurais, répliqua Mme Merdle, prendre sur moi de répondre positivement pour M. Merdle. Les hommes, surtout les gentlemen que la société nomme capitalistes, ne partageant pas toujours l'opinion des femmes sur les questions de ce genre. Mais il me semble, ceci n'est qu'une simple hypothèse de ma part, M. Dorrit, que M. Merdle sera, elle passa la revue de ses avantages personnels avant d'ajouter à loisir, ravi. À cette phrase, les gentlemen que la société nomme capitalistes, M. Dorrit avait toussé comme s'il soulevait quelque objection intérieure. Mme Merdle s'en aperçut, et elle en profita pour lui donner la réplique. Et pourtant, M. Dorrit, je n'avais pas besoin de faire cette remarque, mais elle m'est échappée dans la franchise que je mets à dire le fond de ma pensée à une personne pour qui j'ai une si haute estime, et avec laquelle j'espère avoir, dans la suite, des rapports encore plus agréables. Car il est fort probable que vous devez envisager la question du même point de vue que M. Merdle, à moins toutefois que le hasard, heureux ou malheureux, qui a poussé M. Merdle à s'occuper d'affaires n'ait un peu rétréci son horizon. Je suis aussi ignorante qu'une enfant en tout ce qui regarde les affaires, mais je crains, M. Dorrit, qu'elle ne produise parfois cet effet. Cet habile jeu de bascule, où M. Merdle ne pouvait taper par terre sans faire monter M. Dorrit et vice-versa, eut pour effet de calmer l'atout de M. Dorrit. Il remarqua, avec toute la politesse dont il était capable, qu'on ne saurait permettre, même à Mme Merdle, la plus accomplie et la plus gracieuse des femmes, Mme Merdle s'inclina pour reconnaître le compliment, de soutenir que les entreprises colossales de M. Merdle, si différentes des mesquines entreprises du commun des mortels, n'eussent pas pour effet, au contraire, d'agrandir et de développer le génie qui les avait conçues. « Vous êtes la générosité personnifiée, » répliqua Mme Merdle avec son sourire le plus séduisant. « Espérons que vous avez raison. Mais j'avoue que j'ai une foi presque superstitieuse dans mes idées sur les conséquences qu'entraînent les affaires. » M. Dorrit ne fut pas à court pour trouver un nouveau compliment. Les affaires, aussi bien que le temps, choses si précieuses en affaires, étaient faites seulement pour de pauvres hères et ne regardait nullement une souveraine qui régnait en autocrate sur tous les cœurs. La dame se mit à rire et donna à penser à M. Dorrit que la poitrine, la fameuse poitrine, venait de rougir modestement. C'était un des meilleurs tours de passe-passe de Mme Merdle. « Ce que j'en disais, expliqua-t-elle, est tout simplement fondé sur le vif intérêt que M. Merdle a toujours porté à Edmond et le vif désir qu'il a toujours témoigné de lui faire une brillante position. Je ne parle pas de la position officielle d'Edmond, je crois que vous la connaissez, mais sa position privée dépend entièrement de M. Merdle. Grâce à ma sotte incapacité pour les affaires, je vous assure que je n'en sais pas davantage. » M. Dorrit déclara de nouveau que les affaires étaient indignes d'attirer l'attention de celle dont la seule affaire devait être de charmer et d'enchaîner tous les cœurs. Puis il exprima l'intention d'écrire, en sa double qualité de père et de gentleman, à M. Merdle. La dame approuva ce projet de tout son cœur, si elle avait eu un cœur, mais au moins avec un plaisir bien joué, et expédia par la malle suivante une lettre préparatoire à la 8e merveille du monde. Dans son épître à M. Merdle, comme dans ses dialogues et ses discours sur cette importante question, M. Dorrit entoura son sujet d'une foule d'enjolivements assez semblable aux paraphes dont les professeurs d'écriture embellissent leurs cahiers d'exemples et de chiffres, où les titres des règles élémentaires de l'arithmétique finissent par se métamorphoser en cygne, en aigle, en griffon et autres récréations calligraphiques, et où les majuscules perdent la tête et leur forme naturelle dans une débauche d'encre. Néanmoins, il sut rendre l'objet de sa lettre assez clair pour permettre à M. Merdle de faire semblant d'en apprendre de lui la première nouvelle. M. Merdle répondit donc à M. Dorrit. M. Dorrit répondit à M. Merdle, qui répondit à M. Dorrit, et on annonça bientôt au public que les puissances contractantes étaient d'accord. Alors, et seulement alors, Mademoiselle Fanny se présenta sur la scène dans le costume qui convenait à son nouveau rôle. Alors, et seulement alors, elle absorba complètement M. Sprinkler dans son éclat. Elle brilla pour deux et même pour vingt. Affranchie désormais du souci que lui donnait jusque-là le sentiment d'une position vague et mal définie, ce beau navire ne dévia plus de sa route et se mit à voguer sur son lest avec un balancement élégant qui faisait mieux encore ressortir ses qualités de fin voilier. Les préliminaires étant ainsi réglés à ma satisfaction, je crois qu'il serait temps, ma chère, dit M. Dorrit, d'annoncer officiellement à Madame Générale. Papa, s'écria vivement Fanny, qui interrompit son père dès qu'il eut prononcé le nom de cette dame, je ne vois pas en quoi mon mariage regarde Madame Générale. Ma chère, répondit M. Dorrit, c'est une simple attention envers une dame de bonne famille et de manière distinguée. Oh, ne me parlez pas de la famille et de la distinction de Madame Générale. J'en ai par-dessus la tête, papa. Je suis fatigué de Madame Générale. Fatigué, répéta M. Dorrit, d'un ton de reproche mêlé de surprise. Fatigué de Madame Générale? Tout à fait dégoûté d'elle, si vous aimez mieux, papa. Je ne vois réellement pas en quoi mon mariage la regarde. Qu'elle s'occupe de ses propres projets matrimoniaux, si elle en a. Fanny, répondit M. Dorrit, d'un ton de lente et pesante gravité qui formait un contraste remarquable avec le ton léger adopté par sa fille, « Je vous prie de vouloir bien vous expliquer plus clairement. »« Je veux dire, papa, que si par hasard Madame Générale nourrissait quelques projets matrimoniaux pour son propre compte, il y a bien là de quoi occuper tout son temps sans se mêler des miens. Si elle n'en nourrit pas, tant mieux. » Dans tous les cas, je ne tiens nullement à l'honneur de lui annoncer officiellement mon mariage. Pourquoi pas, Fanny? Permettez-moi de vous le demander. Parce qu'elle peut très bien faire cette découverte par elle-même. Elle n'a pas, que je sache, ses yeux dans sa poche. Ce n'est pas d'aujourd'hui que je m'en aperçois. Qu'elle monte à son observatoire, et si elle n'est pas assez habile pour découvrir la chose à elle toute seule, eh bien, elle l'apprendra le jour de mon mariage. Et j'espère que vous ne m'accuserez pas de manquer à la piété filiale si je vous dis, papa, que selon moi, ce sera toujours assez tôt pour elle. Fanny, je suis surpris, je suis mécontent de l'animosité capricieuse et incompréhensible que semble vous inspirer Madame Générale. Je vous en prie, papa, ne parlez pas d'animosité, car je vous assure que je ne trouve pas que Madame Générale mérite de m'inspirer de l'animosité. » À cette réponse, M. Dorrit quitta sa chaise avec un air de reproche sévère et se tint debout, drapé dans sa dignité, devant sa fille. Celle-ci faisant tourner le bracelet qui ornait son bras, tantôt levant les yeux sur lui et tantôt les baissant, répliqua « Très bien, papa, je suis vraiment désolé de vous déplaire, mais ce n'est pas ma faute. Je ne suis plus une enfant, je ne suis pas aimée, et il faut que je dise ma façon de penser. » Fanny, fit M. Dorrit avec effort, et après un silence majestueux, je vous prie de rester ici, tandis que j'annoncerai officiellement moi-même à Madame Générale, en sa qualité de dame exemplaire, qui est devenue un membre de notre famille, le changement projeté. Si non seulement je vous prie de rester, mais vous l'ordonne. « Oh, papa, interrompit Fanny, avec une intention marquée, si vous y tenez tant que cela, il ne me reste plus que d'obéir. Mais j'espère que vous ne m'empêcherez pas de penser ce que je voudrais, car vraiment cela me serait plus impossible que jamais. » Fanny s'assit donc avec un air de soumission qui ressemblait assez à un défi. On sait que les extrêmes se touchent. Son père, dédaignant de répondre, ou ne sachant que dire, sonna à M. Tinkler. « Madame Générale !» M. Tinkler, peu habitué à recevoir des ordres aussi laconiques relativement à l'aimable vernisseuse, attendit. M. Dorrit, voyant dans l'hésitation de son domestique un souvenir et un reproche de la prison et des témoignages d'autrefois, s'écria « Eh bien, pourquoi n'obéissez-vous pas? Qu'est-ce que cela signifie ?»«
Je vous demande pardon, monsieur, » plaida Tinkler. « Je désirais savoir. »
« Vous ne désiriez rien savoir du tout, » interrompit M. Dorrit, le teint très animé. « Ne me dites pas ce que vous désiriez savoir. »«
Ah, je sais bien que ce n'est pas cela. Vous vouliez vous moquer de moi. »«
Je vous assure bien, monsieur, » commença Tinkler. « Ne m'assurez pas. Je ne veux pas qu'un domestique m'assure. Vous vous moquiez de moi. Je vous renverrai. Je renverrai tous mes gens. Qu'attendez-vous encore ?»«
Je n'attends que vos ordres, monsieur. »
« C'est faux. Vous les avez, mes ordres. Ah, mes compliments à Madame Générale, et dites-lui que je la prie de me faire le plaisir de passer chez moi, si elle n'est pas autrement occupée. Voilà mes ordres. »
En s'acquittant de sa mission, peut-être Tinkler ajouta-t-il que M. Dorrit bouillait de colère. Quoi qu'il en soit, on entendit bientôt au dehors le frou-frou des jupes de Madame Générale se rapprochant. On pourrait presque dire bondissant, avec une vitesse inaccoutumée. Néanmoins, les dites jupes se calmèrent avant de franchir le seuil et se présentèrent avec leur sang-froid habituel. « Madame Générale, » dit M. Dorrit, « veuillez prendre un siège. » La veuve de l'intendant militaire remercia par une courbe gracieuse avant de se laisser glisser dans le fauteuil que lui offrait M. Dorrit. « Madame, » poursuivit ce gentleman, « comme vous avez eu l'obligeance d'entreprendre de former mes filles, et comme je suis persuadé que rien de ce qui les concerne ne saurait vous être indifférent. » «
Tout à fait impossible, » remarqua Madame Générale avec un calme merveilleux. « Je désire donc vous annoncer, madame, que ma fille ici présente. » Madame Générale adressa une légère inclinaison de tête à Fanny, qui répondit par un salut très profond, puis se redressa avec beaucoup de roideur. « Que ma fille aînée a promis d'épouser M. Spankler, que vous connaissez. Par conséquent, madame, vous allez être débarrassée d'une moitié de votre tâche difficile. Difficile, » répéta M. Dorrit, en lançant à Fanny un regard irrité. « Mais ceci, je l'espère, n'amènera aucun changement direct ou indirect dans la position que vous avez eu l'obligeance d'accepter auprès de ma famille. »
Monsieur Dorrit, répondit Madame Générale, dont les mains gantées restèrent posées l'une sur l'autre, dans un repos exemplaire et plein d'égards, et mes petits services d'amitié ne valent pas l'estime qu'il en veut bien faire. Fanny toussa comme pour dire, vous avez bien raison. Mademoiselle Dorrit a sans doute fait preuve dans ce choix de toute la discrétion que permettaient les circonstances. Et j'espère qu'elle voudra bien agréer mes félicitations les plus sincères. Dégagée des entraves de la passion, Madame Générale ferma les yeux en prononçant ce mot, comme si sa pudeur ne lui permettait pas de le prononcer les yeux ouverts, appuyée sur l'approbation des proches parents, et propre à cimenter le fier édifice d'une haute position sociale, de pareils événements ne sauraient causer que de la joie. Mademoiselle Dorrit me permettra donc de lui renouveler mes félicitations les plus cordiales. » La veuve se tut et ajouta intérieurement, pour mieux composer son visage, « Papa, pommes, poules, prunes et prismes. » « Monsieur Dorrit, » ajouta-t-elle tout haut, « est toujours obligeant, et, en retour de la politesse et de l'honneur qu'il me fait, en me communiquant sitôt cette nouvelle, je le prie encore une fois, ainsi que Mademoiselle Dorrit, de recevoir mes remerciements. J'offre également, avec mes félicitations, mes remerciements à Mademoiselle Dorrit. Pour ma part, remarqua Fanny, je suis très flattée, flattée au-delà de toute expression. Vous ne pouvez pas vous figurer, Madame Générale, combien je suis heureuse de voir que vous ne désapprouviez pas mon choix. Je me sens soulagée d'un grand poids, je vous assure. Je ne sais vraiment pas ce que j'aurais fait si vous aviez présenté quelque objection, ma chère madame.
Madame Générale changea la position relative de ses gants, elle fit passer le droit sur le gauche et le gauche sous le droit, avec un sourire aux prunes et aux prismes. « Je n'ai pas besoin de vous dire, Madame Générale, » continua Fanny, répondant à ce sourire par un autre sourire, où il n'y avait aucune trace de ces ingrédients, que, lorsque je serai mariée, tous mes efforts tendront à mériter de plus en plus votre approbation. Le plus grand malheur qui pût m'arriver, ce serait de perdre votre estime. Mais je suis convaincu, connaissant votre bonté, que vous m'excuserez, et j'espère que papa m'excusera aussi, si je relève une légère erreur que vous venez de commettre. Les meilleurs gens du monde sont sujets aux méprises, et vous-même, madame, malgré votre mérite, vous êtes tombée dans une légère erreur. Vous êtes très sensible, je n'en doute pas, à l'honneur que vous fait, avez-vous dit, la confiance que nous venons de vous témoigner. Malheureusement pour moi, je n'y suis pour rien. Le mérite d'avoir un seul instant songé à vous demander votre avis me paraît si respectable que je rougirais de me l'approprier, sachant que je n'y ai aucun droit. Tout l'honneur en revient à papa. Je vous suis fort reconnaissante des encouragements et de la protection que vous daignez m'accorder. Seulement, ce n'est pas moi qui les ai demandés, c'est papa. J'ai à vous remercier, madame, du consentement si généreux que vous venez de m'accorder. Mais vous, madame, vous n'avez aucun remerciement à m'adresser. J'espère continuer à mériter vos bonnes grâces lorsque j'aurai quitté la maison paternelle, et je souhaite, madame, que ma sœur soit pendant bien longtemps encore l'objet de votre affectueuse condescendance. » Après avoir prononcé ce discours avec une extrême politesse, Fanny s'éloigna de l'air le plus élégant et le plus enjoué du monde pour monter l'escalier 4 à 4 et se précipiter, quand on ne put plus l'entendre, le teint très animé chez sa sœur, qu'elle traita de petite marmotte et qu'elle secoua afin de lui faire ouvrir les yeux et les oreilles, tandis qu'elle lui racontait ce qui venait de se passer et lui demandait ce qu'elle pensait maintenant des manœuvres de Madame Générale. Vis-à-vis de Madame Myrtle, Fanny se comporta avec beaucoup d'aisance et de sang-froid, mais sans risquer encore une déclaration de guerre. De temps en temps, ces deux dames préludaient par de légères escarmouches, surtout lorsque Fanny se figurait que sa future belle-mère voulait se donner des airs protecteurs, ou bien qu'elle paraissait plus jeune ou plus belle qu'à l'ordinaire. Mais Madame Myrtle mettait bien vite un terme à ses passes d'armes en s'enfonçant dans ses coussins d'un air de gracieuse indolence et en passant à un autre sujet de conversation. La société, car cette mystérieuse abstraction habitait aussi les sept collines, trouva que Mademoiselle Fanny avait beaucoup gagné depuis les fiançailles. Elle était plus abordable, moins réservée, plus séduisante et moins exigeante. Aussi avait-elle maintenant une foule d'adorateurs et d'admirateurs, ce qui indignait les familles où il y avait des filles à marier. Ces demoiselles, surtout, s'insurgeaient contre la société, complice de cet attentat, et arboraient décidément l'étendard de la révolte. Heureuse de l'agitation qu'elle causait, non seulement Mademoiselle de Ritz se pavana devant le grand monde dans sa propre personne, mais elle mettait beaucoup d'orgueil et d'ostentation à traîner à sa suite son captif Edmond Sparkler. Voyez, avait-elle l'air de dire à chacun, si je juge à propos de me montrer à vous dans cette pompe triomphale, suivie de ce faible prisonnier qui porte mes chaînes, lorsque j'aurai pu orner mon triomphe d'un captif plus vigoureux, c'est qu'apparemment cela me plaît. Je n'ai pas d'autre compte à vous rendre. » M. Sparkler, pour sa part, ne demandait pas d'autre explication. Il allait où on le menait et faisait ce qu'on lui disait, car il sentait que pour lui, il n'y avait pas de moyen plus commode d'arriver à la considération que d'être considéré pour sa femme. Et il était fort reconnaissant qu'à ce prix, on voulût bien faire attention à lui. Cependant, l'hiver s'écoulait, le printemps approchait, et M. Sparkler était obligé de retourner en Angleterre pour y reprendre son siège au Parlement et ses fonctions au ministère, où l'on attendait après lui pour développer et diriger le génie, la science, le commerce, le courage et le bon sens de la nation. Les compatriotes de Shakespeare, de Milton, de Bacon, d'une légion de philosophes passés et présents, de physiciens, de chimistes,
qui avaient dompté la nature et perfectionné l'art dans leurs formes multiples, imploraient l'aide de M. Sparkler s'ils ne voulaient pas les laisser mourir méchamment sans secours. M. Sparkler, ne pouvant résister aux cris d'angoisse de la patrie en danger, déclara qu'il allait partir. Il ne s'agissait donc plus de savoir où, quand et comment M. Sparkler serait uni à la plus jolie fille du monde, qui n'était pas bégueule du tout. Mademoiselle Fanny, après quelques conférences secrètes et mystérieuses, annonça elle-même à la petite Dorrit la solution de cette grave question. « Mon enfant, dit-elle un jour à sa sœur, il y a du nouveau. La chose vient d'être décidée à l'instant, et naturellement, je me suis empressé de te chercher partout pour te l'annoncer. Ton mariage, Fanny, ne m'interromps pas, ma chère enfant. Laisse-moi te communiquer cela comme je l'entends, petite évaporée. Quant à ta question prématurée, si j'y répondais à la lettre, je dirais non. En effet, ce n'est pas mon mariage dont il s'agit, c'est bien plutôt celui d'Edmond. La petite Dorrit parut, et elle n'avait pas tort, assez en peine de savoir ce que voulait dire cette distinction subtile. « Ce n'est pas moi qui suis dans l'embarras, s'écria Fanny, ce n'est pas moi que l'on presse. Ce n'est pas moi qu'on demande à corps et à cri dans les bureaux d'un ministère. Ce n'est pas moi qu'on poursuit pour avoir mon vote à la chambre, c'est Edmond, et il est très malheureux de l'idée de s'en aller tout seul. Pour ma part, je n'aime pas non plus le laisser partir tout seul, car s'il est possible de faire une sottise, et en général on trouve toujours moyen d'en faire, il n'y manquera pas. » En terminant ce résumé sommaire de la confiance qu'on pouvait avoir dans son futur mari, elle ôta son chapeau d'un air affairé et le laissa traîner à terre par les brides. C'est donc plutôt l'affaire d'Edmond que la mienne. Mais ne parlons plus de cela. C'est clair comme le jour. Eh bien, ma chérie, la question étant de savoir s'il doit ou non partir seul, a soulevé cette autre question, le mariage se fera-t-il ici tout de suite, ou attendrons-nous plusieurs mois afin de le célébrer en Angleterre? Je devine que je vais te perdre, Fanny. Quel enfant terrible pour ne vouloir pas écouter les gens, s'écria Fanny. Moitié indulgence, moitié impatience. Je t'en prie, ma chère, écoute-moi jusqu'au bout sans m'interrompre. Cette femme, elle parlait de Madame Merle, cela va sans dire, ne partira d'ici qu'après Pâques. De façon qu'en me mariant ici et en emmenant Edmond, j'aurai de l'avance sur elle. C'est bien quelque chose. Ce n'est pas tout, Amy. En l'absence de cette femme, je ne sais pas trop si je ne serai pas assez disposé à accepter l'offre que M. Merle a faite à papa de lui donner un appartement chez lui. Tu sais bien, cette maison où tu es allée avec une certaine danseuse, ma chère, jusqu'à ce que notre propre maison soit meublée et arrangée. Autre chose encore, Amy. Papa ayant toujours l'intention d'aller lui-même à Londres au printemps, si le mariage a lieu ici, Edmond et moi, nous partirions pour Florence, où papa pourrait nous rejoindre dans quelques semaines, et nous voyagerions tous trois de compagnie jusqu'à Londres. Monsieur Merle a pressé papa d'habiter durant son séjour la maison en question, et je présume que papa acceptera. Mais il est le maître, et sous ce rapport, peu importe d'ailleurs, je ne puis rien affirmer. La différence qu'il y avait entre papa, qui était bien le maître, et M. Sparkler, qui n'était pas le maître du tout, ressortait clairement de la façon dont Fanny établissait les faits, mais sa sœur fit peu d'attention à ce contraste. Elle était partagée entre le regret que lui causait une séparation prochaine et celui de n'être pas comprise dans ce projet de voyage à Londres. « Et ce sont là tes arrangements, Fanny ?»« Arrangements, répéta Fanny. « En vérité, mon enfant, tu es fièrement agaçante. Tu sais que j'ai eu soin de ne rien dire qui pût faire supposer qu'il y eût rien d'arrêté. Ce que j'ai dit, c'est qu'il se présente certaines questions, et je t'ai énuméré ces questions. » Le regard calme et rêveur de la petite Dorrit rencontra celui de Fanny. « Maintenant, ma petite chérie, continua Fanny, balançant son chapeau par les brides d'un air d'impatience, il ne s'agit pas d'ouvrir de grands yeux comme un petit hibou. À quoi ça sert-il? J'ai besoin de tes conseils. Que me conseilles-tu? Ne crois-tu pas, Fanny, demanda la petite Dorrit, d'un ton persuasif, après avoir hésité un peu, que ce qu'il y aurait de mieux à faire, ce serait de retarder le mariage de quelques mois? Non, petite tortue, riposta Fanny avec beaucoup de vivacité.
je crois tout le contraire. » Sur ce, elle lança son chapeau loin d'elle et se jeta dans un fauteuil. Mais l'instant d'après, elle redevint très affectueuse. Se levant d'un bond et s'agenouillant par terre, elle entoura de ses bras sa sœur et la chaise sur laquelle elle était assise. « Ne va pas croire que je suis en colère ou méchante, ma chérie, parce qu'il n'en est vraiment rien. Mais tu es un si drôle de petit corps. Tu ferais damner un saint. Ne t'ai-je pas dit, enfant que tu es, qu'on ne peut pas avoir assez de confiance dans Edmond pour le laisser partir seul? Ne sais-tu pas cela toi-même? Oui, oui, Fanny, je sais que tu me l'as dit. » « Et je sais que tu sais que j'ai eu raison de le dire, » riposta Fanny. « Eh bien, ma chère enfant, puisqu'il est impossible de le laisser partir seul, il s'ensuit, je suppose, que je dois partir avec lui. » « Mais oui, chère Fanny, » répliqua la petite Dorrit. « Maintenant que tu connais les arrangements nécessaires pour cela, tu me conseilles, à ce que je vois, chère petite, de les adopter. » « Mais oui, chère Fanny, » répéta la petite Dorrit. « Allons, » s'écria Fanny d'un ton de résignation, « je vois bien qu'il le faut. J'étais venue te trouver, ma colombe, pour éclaircir mes doutes, quand j'ai vu la nécessité de prendre une détermination. Me voilà décidée, c'est une affaire faite. » Après avoir cédé d'une façon si exemplaire au conseil de sa sœur et à la force des circonstances, Fanny prit un air des plus bénévoles, comme quelqu'un qui viendrait de sacrifier ses propres inclinations pour faire plaisir à sa meilleure amie, et qui s'applaudirait au fond de sa conscience de cette bonne action. « Après tout, ma chérie, continua-t-elle, tu es la meilleure des petites sœurs et pleine de bon sens. Je ne pourrais pas me passer de toi. » À ces mots, elle pressa sa sœur dans un embrassement plus étroit et vraiment affectueux. « Aussi, je n'y songe pas le moins du monde, Amy. J'espère, au contraire, que nous serons presque inséparables. Et maintenant, ma chérie, je vais à mon tour te donner un conseil. Quand tu seras seule avec Madame Générale... » « Je vais donc rester seule ici avec Madame Générale ?» demanda tranquillement la petite Dorrit. « Mais naturellement, mon trésor, tu seras seule avec elle jusqu'au retour de papa, à moins que tu ne comptes sur Édouard pour te tenir compagnie. Mais comme il ne le fait pas lorsqu'il est ici, j'ai peur qu'il ne le fasse bien moins encore maintenant qu'il est à Naples ou en Sicile. J'allais donc te conseiller, lorsque tu m'as interrompu, comme une petite brouillonne que tu es, quand tu te trouveras seule ici avec Madame Générale, Aimée, de faire toujours la sourde oreille chaque fois qu'elle emploiera quelques moyens artificieux pour tâcher de te laisser entrevoir qu'elle fait la cour à papa ou que papa lui fait la cour. Tu peux être sûr qu'elle y fera tout son possible. Je la connais, je sais bien comment elle va sournoisement cherchant son chemin à tâtons avec ses mains gantées. Pour rien au monde, n'aie l'air de te douter de ce que cela veut dire. Et si papa, à son retour, t'annonce qu'il songe à te donner Madame Générale pour maman, la chose ne devient pas du tout moins probable à cause de mon départ, je te conseille de répondre à l'instant « Papa, avec votre permission, je m'y oppose formellement. Fanny m'a déjà prévenu qu'elle s'y oppose aussi, comme moi. » « Ce n'est pas que j'espère le moindre succès de ton opposition, ni que je te crois capable de la formuler avec la fermeté nécessaire. Mais il s'agit de défendre un principe filial, et je te supplie de ne pas permettre à Madame Générale de se donner des airs de belle-mère avec nous, sans t'empresser de rendre au moins la vie aussi malheureuse que possible aux gens qui t'entourent. Je ne compte pas du tout, à te dire vrai, sur ton énergie. Je sais bien, même à l'avance, que tu n'en es pas capable avec papa. Ce que je voudrais, ce serait au moins te rappeler au sentiment de ton devoir. Mais moi, dans tous les cas, mon trésor, tu peux compter sur mon aide contre une pareille union et sur l'opposition que je soulèverai. Je ne te laisserai pas dans l'embarras. Toute l'influence que va me donner ma position de femme mariée, pourvue de quelques agréments, influence que j'espère bien mettre à profit pour faire enrager Madame Merle, je veux la faire retomber sur la tête hypocrite et les cheveux presque aussi hypocrites de Madame Générale, car je suis sûr qu'ils sont faux, quelque laid qu'ils soient, et quelque probable qu'ils puissent paraître que personne, à moins d'être folle, s'avise d'en acheter de pareil. » La petite Dorrit reçut ces conseils, sans oser les repousser ouvertement, mais aussi sans donner aucun motif de croire qu'elle fût disposée à les suivre. Quant à Fanny,
ayant pour ainsi dire fait ses adieux à sa vie de jeune fille et mis ordre à ses affaires, elle commença, avec l'ardeur naturelle à son caractère, à se préparer à cette grave cérémonie qu'on nomme un mariage. Voici comment elle s'y prépara. Elle envoya sa femme de chambre à Paris, sous la protection du courrier, acheter cette collection spéciale d'objets de toilette, à laquelle il serait de très mauvais genre de donner, dans le présent récit, un nom anglais, mais à laquelle ce récit obstiné, se fondant sur le principe vulgaire qu'il doit rester à la langue qu'il parle, se refuse à donner un nom français. La riche et magnifique corbeille, achetée par leurs soins, traversa quelques semaines plus tard le pays intermédiaire, par une route toute hérissée de bureaux de douane, et gardée par une innombrable armée de mendiants en uniforme, qui demandent l'aumône à chaque fois qu'ils ouvrent une malle, comme si chacun de ces terribles guerriers était le vieux Bélisaire. Il y en avait tant que si le courrier n'avait pas distribué en route un boisseau et demi de menue monnaie d'argent, afin de soulager la misère de ces malheureux, ils auraient usé toutes les toilettes à force de les tourner et de les retourner avant de le laisser parvenir jusqu'à Rome. Cependant, elles échappèrent sans accident à tous les dangers de la route et arrivèrent enfin au but de leur voyage en fort bon état. Là, on en fit l'exhibition pour des sociétés choisies de spectatrices dont l'âme charitable en conçut immédiatement une jalousie effroyable. On fit en même temps des préparatifs pour l'heureux jour où une partie de ses trésors devait paraître en public. On invita au déjeuner de noces la moitié de la colonie anglaise qui habitait la ville de Romulus. L'autre s'arrangea pour se trouver sous les armes, en qualité de critique bénévole, sur divers points du parcours de la grande solennité. Le haut et puissant signor Edgardo Dorit arriva en poste à travers la boue et les ornières profondes des routes italiennes pour honorer la cérémonie de sa gracieuse présence. Signor Edgardo venait de se former aux bonnes manières en fréquentant la noblesse napolitaine, noblesse modèle s'il en fut. Le premier hôtel de Rome et tous les myrmidons culinaires de cet établissement furent mis en réquisition pour fournir le déjeuner matrimonial. Les mandats de M. Dorit tombaient dru comme grêle sur la banque Torlonia. On eût dit une panique soulevée contre cette maison. Le consul de Sa Majesté britannique n'avait pas vu un pareil mariage dans toute sa carrière consulaire. Le grand jour arriva. Je ne sais pas comment la louve du Capitole ne fut pas tentée de devenir envieuse et de montrer l'étang en voyant de quelle façon les sauvages habitants des îles du Nord faisaient les choses de ce temps-ci. Je ne sais pas comment les statues des exécrables empereurs de la soldatesque, que les sculpteurs contemporains n'ont pas osé flatter au point de remplacer leurs ignobles têtes d'assassins par des figures d'honnêtes gens, ne furent pas tentés de descendre de leurs piédestaux pour enlever la mariée. Et la fontaine desséchée où les gladiateurs se lavaient autrefois, comment ne se remit-elle pas à couler en l'honneur de la cérémonie? Et le temple de Vesta n'aurait-il pas dû renaître de ses ruines tout exprès pour servir de décor dans cette grande occasion? Ils pouvaient le faire. Eh bien, ils ne le firent pas, imitant en cela plus d'un être animé, sans en excepter les lords et les ladies de la création, qui pourraient faire bien des choses et ne font rien. Le mariage fut donc célébré en grande pompe. Des moines en froc noir, blancs ou bruns, s'arrêtèrent pour regarder défiler les équipages. Des paysans vagabonds vêtus de peau de mouton vinrent mendier et faire pleurer leurs cornemuses sous les croisées de l'hôtel Dorit. Les volontaires anglais passèrent en revue le cortège. La matinée s'envola, l'heure des vêpres arriva. La fête expira peu à peu. Les 1000 églises de Rome avaient mis leurs cloches en branle, mais ce n'était pas pour ça. Fit donc un mariage hérétique. Quant à l'église Saint-Pierre, elle déclara hautement que cela ne la regardait pas. Cependant, la mariée était déjà bien loin sur la route de Florence. Un des traits caractéristiques de cette noce, c'est qu'on n'y parlait guère que de la mariée. Personne ne s'occupait du mari. Personne ne songeait non plus à la première demoiselle d'honneur. Du reste, on ne pouvait guère la voir, la petite Dorit, perdue comme elle était au milieu de l'éclat éblouissant de la fête. La mariée monta donc dans son charmant équipage, accompagnée par occasion de son mari. Et après avoir roulé quelques minutes sur un pavé bien uni, elle commença à cahoter dans les ornières marécageuses de l'ennui à travers une longue, longue avenue de ruines et de décombres. D'autres équipages de noces avaient suivi, dit-on, et ont suivi depuis le même chemin. Dans le cas où la petite Dorit se serait sentie un peu seule et un peu abattue ce soir-là, rien n'aurait été plus capable de dissiper sa tristesse que de pouvoir travailler comme autrefois auprès de son père, lui servir son souper et l'aider à se coucher. Mais il n'y fallait pas songer, maintenant qu'ils étaient installés dans l'équipage de grande cérémonie que conduisait Madame Générale. Lui préparer son souper, mais si M. Dorit eût éprouvé le besoin de souper, il y avait là un cuisinier italien et un pâtissier suisse qui auraient commencé par mettre des bonnets aussi élevés que la mitre du pape et par se livrer à une foule de mystères alchimiques dans un laboratoire plein de casseroles de cuivre avant de permettre à leur seigneur et maître d'avaler une seule bouchée. M. Dorit, ce soir-là, fut sentencieux et didactique. S'il avait voulu être aimant tout bonnement, il aurait fait beaucoup plus de bien à la petite Dorit. Mais elle l'accepta tel qu'il était. Quand donc ne l'avait-elle pas accepté tel qu'il était? Et fit contre fortune bon cœur. Enfin, Madame Générale se retira. Sa façon de prendre congé le soir était la plus glaciale des cérémonies. On eût dit qu'elle croyait nécessaire de pétrifier sur place l'imagination des gens afin de leur ôter la fantaisie de songer à elle. Lorsqu'elle eut accompli ses roides préliminaires, qui ressemblaient fort à une charge en 12 temps à l'usage du monde élégant, elle s'éloigna. Alors la petite Dorit passa le bras autour du col de son père en lui disant bonsoir. « Aimée, ma chère, » dit M. Dorit en lui prenant la main, « cette soirée couronne un jour qui m'a vivement impressionné et charmé. » Et un peu fatigué aussi, cher père, « Non, du tout. Je ne puis ressentir aucune fatigue à la suite d'une circonstance remplie de joie aussi pure. » La petite Dorit fut enchantée de trouver son père dans d'aussi heureuses dispositions, et elle sourit du fond du cœur. « Ma chère, continua M. Dorit, c'est un événement qui doit vous servir d'exemple, à vous, mon enfant favorite et dévoué. » La petite Dorit, effrayée par ce préambule, ne sut que dire, bien que son père eût cessé de parler, comme s'il attendait une réponse. « Amy, poursuivit-il après un moment de silence, votre chère sœur, notre Fanny, a contracté un mariage qui est de nature à étendre nos relations et à consolider notre position sociale. Mon amour, j'espère que le temps n'est pas loin où il se présentera pour vous un parti convenable. Oh non, laissez-moi rester auprès de vous. Je vous en supplie et je vous en conjure. Je ne demande qu'à rester auprès de vous pour vous soigner. » Elle prononça ces paroles en proie à une vive terreur. « Allons, Amy, » répondit M. Dorit, « pas d'enfantillage. Votre position vous impose une certaine responsabilité. Vous êtes tenu de développer cette position et de vous en montrer digne. Quant à me soigner, je puis me soigner moi-même. Ou bien, ajouta-t-il après un nouveau silence, s'il fallait quelqu'un pour me soigner, je, Dieu aidant, je peux me faire soigner. Mais je ne saurais, ma chère enfant, me résoudre à vous accaparer ou, pour ainsi dire, à vous sacrifier. » N'était-il pas un peu tard pour commencer à faire preuve de tant d'abnégation, pour avoir l'air de s'en faire honneur, pour y croire, en supposant la chose possible? « Ne parlez plus de cela, Amy. Je ne saurais m'y résoudre. Je ne dois pas m'y résoudre. Ma conscience s'y oppose. Je profite donc, mon amour, de l'occasion que m'offre cette circonstance flatteuse et imposante pour remarquer avec toute la gravité nécessaire que désormais mon vœu le plus cher, c'est de trouver pour vous un parti convenable, je le répète. » « Oh non, cher père, je vous en prie. » Aimé, je suis persuadé que si l'on soumettait cette question à une personne douée d'une connaissance parfaite du monde, d'une délicatesse et d'un jugement supérieur, à Madame Générale, par exemple, il n'y aurait pas deux avis quant à la nature affectueuse et à la haute convenance des sentiments que je viens de vous exprimer. Mais, comme je connais de longue date et, par expérience, votre caractère soumis et dévoué, je suis convaincu que je n'ai pas besoin de vous en dire davantage. Je n'ai aucun mari à vous proposer pour le moment, ma chère. Je n'ai même personne en vue. Je désire seulement que, nous nous comprenions. Bonsoir, ma chère et seule fille. Bonsoir. Dieu vous bénisse. Si ce soir-là la petite Dorit songea un seul instant que son père n'aurait aucun chagrin à se séparer d'elle dans sa prospérité, maintenant qu'il désirait la remplacer par une seconde épouse, elle chassa cette pensée. Toujours fidèle au vieillard qu'elle seule avait soutenu dans ses plus mauvais jours, elle repoussa une pareille idée. Elle se contenta, durant cette nuit d'insomnie et de larmes, de songer que son père ne voyait plus rien qu'à travers ses richesses, et le désir incessant de les conserver et de les accroître. Ils continuèrent à figurer dans l'équipage de cérémonie, avec Madame Générale sur le siège, pendant 3 semaines encore. Alors, M. Dorit se mit en route pour rejoindre Fanny à Florence. La petite Dorit l'eût volontiers accompagnée jusque-là, par pure affection pour lui, quitte à s'en revenir toute seule, rêvant à sa chère Angleterre. Mais, bien que l'on n'eût pas là le courrier qui avait escorté la nouvelle mariée, le valet de chambre, M. Tinkler était le second en grade, et le choix paternel ne devait pas tomber sur Aimée tant qu'il pourrait trouver à se faire accompagner par un serviteur à gages. Madame Générale prit les choses fort tranquillement, aussi tranquillement qu'elle prenait tout le reste, lorsque l'habitation romaine de M. Dorit ne fut plus occupée que par la petite Dorit et elle. Aimée sortait souvent dans la voiture de louage qu'on leur avait laissée, descendait seule et errait parmi les ruines de l'ancienne Rome. Par je ne sais quelle transformation magique, les ruines du vaste amphithéâtre, des vieux temples, des arcs de triomphe, des routes romaines, des vieux tombeaux, sans cesser d'être ce qu'elles étaient, devenaient aussi à ses yeux les ruines de la vieille prison de la maréchaussée, les ruines de sa vie d'autrefois, les ruines des visages et des formes qui la peuplaient naguère, les ruines de ses affections, de ses espérances, de ses soucis, de ses joies. Deux sphères ruinées d'activité et de souffrance, posées là devant la jeune fille, qu'on trouvait souvent assise sur quelques colonnes tronquées. Et dans les endroits solitaires, sous le ciel bleu, elle les voyait toutes les deux ensemble. Mais Madame Générale était bientôt près d'elle pour décolorer tout, comme la nature et l'air lui avaient rendu ce service à elle-même, embellissant de prunes et de prismes le texte du digne M. Eustace à chaque occasion qui se présentait. Cherchant partout M. Eustace et sa compagnie, et ne voyant jamais autre chose, déterrant les eaux les plus secs de l'Antiquité, et les avalant tout d'un trait sans le moindre regret, comme une goule en gants beurre frais.